Bienvenue à tous, merci d'être venus si nombreux à cette table ronde sur l'open innovation et au lancement de l'association Le Connecteur. En premier, je vais demander à Denis Tessier de venir nous dire un petit mot de présentation.
Ben, bonjour à tous. Donc Denis Tessier, je suis le directeur délégué d'ENGIE, désigné parrain de cette première manifestation. Je vais vous emmener simplement en deux minutes sur un petit voyage de 160 ans. Notre groupe a 160 ans. On est une vieille dame. Hein, on est né de la création du canal de Suez en 1869 qui a été ouvert. Et quel rapport avec notre présence aujourd'hui, c'est qu'il y a 150 ans, il fallait avoir une idée, une inspiration. Il fallait réunir tout un tas d'acteurs autour de la table. Et finalement, à cette époque-là, on n'était qu'une petite start-up avec une belle inspiration. Résultat des courses, on bouleverse la vie des gens à ce moment-là, enfin dans les communications qui étaient essentiellement maritimes, les communications commerciales. On bouleverse la vie des gens localement parce qu'évidemment, on amène l'eau, on amène l'agriculture, on amène tout un tas de choses. Et puis, pour creuser ce canal, il a fallu développer tout un tas d'innovations. Au même moment, c'était la révolution industrielle. On est à la deuxième moitié du 19e siècle. Et la révolution industrielle, bah là, c'est pareil. Hein, il faut amener l'eau, il faut amener l'électricité, il faut amener tout un tas de trucs qui concernent nos métiers. Et toujours dans cet esprit en fait, de développement, je crois qu'une des principales innovations qui a toujours guidé notre action, c'est celui du partenariat et de la capacité en fait, à pouvoir mélanger les genres. Et mélanger les genres, c'est une entreprise, petite ou grande, qui a une idée, c'est du public ou du privé. Et c'est encore aujourd'hui ce qui a guidé notre stratégie, puisque maintenant on parle de stratégie, on parle d'open innovation, mais c'est ni plus ni moins ce qui, depuis un peu plus de deux ans maintenant, va nous permettre de rénover nos métiers. Hein. Donc on fait plus le canal de Suez. La révolution, c'est plus de la technologie autour de l'électricité ou du gaz ou autre. La révolution pour nous, elle est digitale, elle est environnementale, mais en tout cas, elle obéit aux mêmes règles et qu'on est toujours à la recherche à la fois de l'idée technologique, mais on est aussi à la recherche des bonnes connexions avec notre monde, environnant, et que ce soit les start-up ou les partenaires publics-privés. Voilà, donc à ce titre-là, je pense qu'on a inscrit dans notre patrimoine génétique quelque chose qui vous conduit à être présent aujourd'hui, vous conduit à participer en fait à cette table ronde. Et je suis très fier, très heureux d'être le parrain de ce premier événement du Connecteur, à qui je souhaite une longue vie, une belle vie, et puis de continuer ainsi à nous faire nous émouvoir autour de quelques sujets très économiques.
Merci, Denis. Je vais demander à une partie de l'équipe du Connecteur de venir vous présenter l'association naissante.
Vraiment, en deux mots, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Ça nous touche beaucoup, puisque c'est le premier événement officiel, on va dire, du Connecteur, l'association ayant été créée il y a 10 jours, 2 semaines à peu près. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que le Connecteur ? En deux mots, c'est une association qui est vraiment orientée sur l'open innovation, c'est-à-dire qui a pour vocation de développer les échanges et la connaissance au sein de l'écosystème d'innovation de l'Auvergne, autour de Clermont et des autres villes de notre région Auvergne, celle-là. Voilà, on croit très fort que l'innovation peut et va être un facteur clé de développement de l'écosystème et qu'à travers le fait de rapprocher les start-up notamment et les entreprises, les collectivités, ça peut générer plus d'emplois, plus de richesses, de valeurs, etc. Voilà. Donc on veut créer ces opportunités de rencontres de deux manières. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que Yann est devant. Merci Yann. Donc des rencontres sur l'open innovation, c'est des événements comme celui-ci, des partages de bonnes pratiques, de retours d'expérience. Ça peut être aussi des événements type startup dating, comme on les appelle, c'est-à-dire des rencontres sur une thématique de startup entre des entreprises et des startups, je ne sais pas, sur les biotech, sur la fintech, sur beaucoup de tech. Voilà. et un projet que nous sommes en train de travailler. On voit s'il est pertinent, s'il est intéressant de créer un support d'information numérique, un site web, un support d'information sur l'innovation locale, c'est-à-dire sur l'innovation en Auvergne, avoir un site qui donne des infos sur, pour tous les acteurs de l'écosystème, qu'ils soient côté entreprise, côté start-up, côté ESC, etc. Voilà. Donc on est en train de travailler sur ce projet. Voilà les deux axes de les deux axes d'action du connecteur. Qui sommes-nous ? Voilà, donc les cinq membres fondateurs, mais on est de plus en plus nombreux. Sont présents ici, Yann Bailly, côté Numelink et Preda, une start-up sur le micro-apprentissage. Preda qui a été créé également par Frédéric. Lionel et Fabien qui ne sont pas là mais qui pensent très fort à nous. Vous les connaissez peut-être. Lionel Fauché donc, qui est le coordinateur en fait, du TEDx Clermont. Et Fabien Marlin, qui est chez Michelin Solutions, anciennement, qui était avant dans l'incubateur Michelin. Voilà. Et moi-même, auparavant, à la Montagne Centre France, sur les relations avec l'écosystème de start-up. Et maintenant, sur le connecteur, presque à temps plein. Voilà.
Et Paul.
Pardon, oui. Parce que je lisais la slide et j'aurais dû mettre dans la slide. Et Paul, voilà, qui est notre premier membre actif, on va dire ça comme ça techniquement. Il nous soutient beaucoup, merci. Et voilà, donc l'idée, c'est une association, donc c'est de regrouper le plus de monde possible autour de ces projets impliqués dans l'écosystème pour créer plus d'opportunités de rencontres et de connaissances. C'est tout. Je cède la parole à Frédéric. Merci.
Bien, ben on va pouvoir commencer cette table ronde donc, sur l'open innovation. L'open innovation qui prend plusieurs formes. Et donc, je remercie les membres de cette table ronde d'avoir voulu consacrer un peu de temps à témoigner. On va aborder l'open innovation sous plusieurs angles. Donc, des témoignages plutôt de grands groupes. Et puis, nous avons le plaisir d'avoir deux jeunes entreprises qui viendront expliquer aussi comment elles voient l'open innovation, ce que ça leur a apporté. L'open innovation, elle est sous plusieurs angles. Alors, le premier angle qu'on va aborder, c'est avec Philippe Ruffin du CEA. C'est l'open innovation qui permet la création de start-up issues de travaux de recherche du CEA. Et donc, l'open innovation avec un angle de corporate venture.
Merci. Bonjour à tous. En effet, je me représente rapidement, Philippe Ruffin, je suis en charge du programme d'accélération de start-up du CEA Leti. Pour ceux qui ne connaissent pas, le CEA Leti, c'est un centre de recherche basé à Grenoble. On est spécialisé dans les micro et nanotechnologies. Donc on représente aujourd'hui 2200 personnes, 2200 chercheurs. Et on dépose des brevets, hein, c'est notre fonds de commerce, on dépose de l'API, on crée de l'innovation et on la transfère à nos partenaires industriels, principalement des grands comptes, des grands groupes en France, mais aussi en Europe et de plus en plus à l'international. On a récemment signé un contrat avec Intel sur certains domaines qui leur sont propres. Voilà, donc on travaille aussi avec les startups à trois niveaux et pour trois raisons différentes. La première raison, c'est que les startups nous permettent d'accéder à des endroits, des zones de marché, à des applications sur lesquelles nous, en tant que grand groupe, on ne sait pas aller, on ne sait pas se positionner. Elles ont une agilité qui nous intéresse, bien évidemment. Et puis surtout, elles ont une capacité à aller récupérer de la connaissance marché beaucoup plus que nous. On prend fréquemment l'exemple d'une de nos start-up, puisqu'on en crée aujourd'hui 5 ou 6 par an quand même. On en a une soixantaine de créées, donc certaines vivent leur vie de start-up et se font racheter. Et on prend souvent l'exemple de Mouvea, qui est une start-up qui était spécialisée dans la détection de mouvements, entre autres, et qui a été rachetée par un groupe américain et qui littéralement campait chez ces grands donneurs d'ordre qui à l'époque étaient les Samsung, Apple. Et quand je dis camper, c'est réellement camper, c'est-à-dire qu'ils pouvaient passer 15 jours, 3 semaines dans les locaux de ces entreprises-là et principalement auprès des gens qui faisaient les smartphones ou les tablettes de ces grands groupes. Ce que nous, on n'arrive pas forcément à faire en tant que centre de recherche. On a plutôt nos interfaces auprès des groupes de R&D de ces centres de recherche. Donc, travailler avec des startups et créer des startups qui vont faire ça et qui reviennent ensuite vers nous, non pas pour trahir des secrets, bien sûr, hein, ça va de soi, mais pour développer avec nous des projets qui correspondent à leur marché, nous permet, si on est suffisamment intelligent et si on travaille sur les signaux faibles, d'agréger de la connaissance et de préparer notre pays pour le coup d'après avec ces grands groupes. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, bien sûr, c'est qu'on pousse nos startups à aller se rapprocher des grands groupes, parce que la plupart de nos startups sont des startups qui ont une vocation à être en B2B. Donc elles vendent à des industriels. Donc on leur demande d'aller rapidement vers ces industriels pour dérisquer leur projet, ce qui est une phase absolument primordiale et indispensable. Toutes nos startups sont des startups très capital intensive. C'est en premier tour de table, c'est du 3 ou 4 millions d'euros. Elles ne lèveront pas cet argent, elles ne se financeront pas si elles n'ont pas déjà dérisqué leur proposition de valeur auprès des grands groupes de leur marché. Si elles n'ont pas déjà idéalement des marques d'intérêt très fortes, idéalement des contrats, ce qui n'est pas toujours facile à avoir quand on a une technologie qui n'est pas complètement mature. Mais en tout cas, ça fait partie de la démarche et nous, on les pousse régulièrement et dès le départ à aller près de ces grands groupes. Le troisième axe, c'est effectivement un axe de corporate venture, puisque d'une part, nous, on a une entité corporate. On est systématiquement cofondateur de nos startups, donc on prend de l'equity à la création. Et puis on suit parfois, pas tout le temps, pas systématiquement, mais on peut suivre en premier tour, en deuxième tour de table. Mais la plupart de nos partenaires industriels, Engie, Air Liquide, Valeo, ont leur corporate venture. Et lorsque nos startups gravitent dans leur sphère d'attraction, forcément, ces corporates-là sont actifs, très actifs. On a plusieurs de nos startups qui ont, alors c'est souvent en deuxième tour de table, c'est parfois en premier, mais souvent en deuxième tour de table, qui ont qui Engie, qui Aliad, qui Valeo à leur capital. C'est important pour nous que des groupes français se positionnent sur nos startups pour deux raisons. La première, c'est que l'activité, quand bien même elle est internationale, l'activité physique, la production, le développement sont souvent proches des investisseurs. Donc avoir des investisseurs français au capital de nos boîtes, ça nous permet aussi d'assurer, parce que ça fait partie de notre mission en tant que CEA, ça nous permet d'assurer que de l'emploi soit créé en France. Donc c'est vraiment important. Et puis aussi parce que quand un corporate venture rentre au capital, bien sûr, on pense à la sortie, on pense à l'exit. Et là, de même, on essaye de travailler avec les grands groupes, nos partenaires, pour que nos startups, in fine, aient des possibilités d'exit en France, en Europe idéalement, et ne partent pas systématiquement aux US ou en Asie, comme c'est souvent le cas pour nos startups qui ne rentrent pas tout en bourse et qui se font régulièrement racheter. C'est pas trop mal, je crois, en timing.
À la seconde près, bravo. François Cossade, vous êtes le CEO de ANS Biotech. Naturellement, vous travaillez avec des grands groupes du fait de votre activité, mais vous sortez de cette relation client-fournisseur souvent. Et cette relation avec les grands groupes vous donne une bonne visibilité pour développer du business aussi.
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Quelques mots sur l'activité de mon entreprise. Donc, j'ai fondé une entreprise qui s'appelle ANS Biotech il y a maintenant 10 ans. Donc, c'est plus véritablement une start-up. Je l'ai créée ici dans l'environnement auvergnat, à Clermont-Ferrand, pour une bonne et simple raison, c'est que la thématique de recherche de ma société étant la douleur et la pharmacologie préclinique de la douleur, je voulais pouvoir, au-delà de la simple pharmacologie préclinique, établir des liens avec la recherche clinique. L'objectif pour moi étant véritablement d'ouvrir et de créer des passerelles vers la clinique humaine, mais aussi la clinique animale. Donc toute la problématique de la prise en charge et du traitement de la douleur, aussi bien chez l'homme que chez le patient animal. Et donc, je suis venu m'installer ici en Auvergne, il y a maintenant 10 ans, parce que je considérais qu'il y avait vraiment l'environnement qui s'y prêtait, notamment l'environnement hospitalo-universitaire, avec des cliniciens spécialisés dans la recherche sur la douleur. Et ce faisant, pouvoir, au-delà des activités de service qui constituent la base de mon business, et qui me permettent évidemment de générer de la trésorerie, et de générer du chiffre d'affaires. Je voulais vraiment pouvoir m'inscrire dans une dimension beaucoup plus d'innovation, de recherche, et de pouvoir me questionner avec mes partenaires hospitalo-universitaires, mes partenaires académiques, mais aussi mes partenaires privés, car il y en a un certain nombre qui sont installés ici en région, de pouvoir réfléchir à la manière de mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques de la douleur, de manière à être plus à même aussi de proposer des solutions intégrées auprès de nos clients. Et en effet, Frédéric en a dit un mot très rapidement, de manière à être aussi beaucoup plus ouvert et beaucoup plus crédible dans une démarche internationale auprès des grands donneurs d'ordre avec lesquels je travaille, qui sont basés bien sûr en Europe, en France aussi, mais de plus en plus maintenant, je travaille aussi avec les États-Unis, plus récemment avec le Japon, et les interlocuteurs que je peux avoir dans ces grands marchés de la pharma sont évidemment de plus en plus à la recherche d'une expertise de haute qualité, couvrant à la fois des aspects de recherche préclinique, mais aussi des aspects de recherche clinique. Et dans ce contexte-là, l'aventure d'ANS Biotech, qui a démarré il y a 10 ans, a très vite aussi trouvé un essor au sein de la création d'un partenariat, d'un consortium, que peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler, qui s'appelle Analgesia, le consortium Analgesia Partnership, dont j'ai été l'un des membres fondateurs aux côtés du professeur Richelieu. Et ça a été vraiment le point de départ, vous l'évoquiez, cette dimension publique-privée, ça a été vraiment le point de départ de cette dynamique publique-privée ici à Clermont-Ferrand autour de ce thème, la douleur, en étant convaincu qu'il y avait ici un vrai réseau d'expertise, un vrai réseau de compétences et de savoir-faire. Et notre objectif a été de pouvoir réunir de façon très équitable, dès le départ, des partenaires académiques et des partenaires privés, avec l'objectif de mettre en commun nos savoir-faire, nos compétences, de manière à créer de l'innovation, de manière à pouvoir mieux cerner les problématiques liées à l'étude de la douleur et être en capacité de proposer de nouvelles approches expérimentales pour l'étude de la douleur. Et aujourd'hui, c'est clairement un atout dans le jeu d'une petite entreprise comme ANS Biotech, hein, qui fait 12 personnes, donc on est évidemment une toute petite structure, mais on a aussi une vraie crédibilité auprès de nos partenaires industriels dans cette capacité qui est la nôtre de pouvoir proposer en effet des passerelles entre recherche clinique, recherche préclinique, et dans cette capacité qui est la nôtre de pouvoir être tout le temps à l'affût d'opportunités de développer de nouvelles méthodologies, de nouveaux concepts expérimentaux pour étudier la douleur, de manière à mieux la comprendre, à mieux l'étudier, et surtout par derrière à pouvoir mieux tester de nouveaux candidats, candidats médicaments bien évidemment, mais aussi de nouveaux produits qui potentiellement pourraient être intéressants pour la prise en charge et le traitement de la douleur. Et donc, à ce titre-là, nous avons aujourd'hui des clients qui non seulement nous sollicitent pour tout ce qui est problématique préclinique, qui nous sollicitent à leur demande pour développer de nouveaux modèles expérimentaux d'études de la douleur. J'ai le cas précis aujourd'hui d'un groupe pharmaceutique de taille internationale qui nous fait travailler sur le développement de nouveaux modèles d'arthrose expérimentale. Aussi bizarre que ça puisse paraître, certains modèles n'ont jamais été utilisés dans leur dimension évaluation de la douleur. Et il y a aujourd'hui une vraie prise de conscience que, typiquement, sur l'arthrose, l'arthrose, c'est effectivement l'atteinte du cartilage, mais c'est aussi des réactions douloureuses, c'est aussi une problématique de qualité de vie, c'est une problématique, effectivement, de mieux vivre, et c'est vrai aussi bien dans le monde de la santé humaine que dans le monde de la santé animale. Voilà, en quelques mots, je vois le chrono qui arrive inexorablement vers les zéros, mais voilà, je voulais vous donner un ou deux exemples de ce qu'on peut faire chez ANS Biotech et dans ce contexte de Analgesia Partnership.
Merci François. Baptiste Le Sueur, donc vous occupez de la stratégie produit et innovation pour le groupe Areva. De votre côté, les relations PME start-up, quand on s'est eu au téléphone, vous disiez c'est pas, ça se fait pas de manière naturelle, ça a été un peu une révolution en interne pour revoir quelques process.
Oui, bonjour à tous. Oui, c'est pas si simple de mettre en place de l'open innovation pour un grand groupe. Et je pense que s'il y a des gens ici qui sont dans un grand groupe et qui ont envie de mettre en place une démarche d'open innovation, ou même des gens qui ont envie de créer une start-up et de travailler avec un grand groupe, il y a un certain nombre de choses à voir et un certain nombre de choses à faire avant de se lancer. Juste rapidement, Areva en Rhône-Alpes, c'est un peu plus de 5000 personnes et on travaille principalement sur la maintenance des centrales nucléaires. On a des problématiques liées à la mobilité parce qu'on intervient principalement chez nos clients, donc dans des environnements sur lesquels on n'a pas forcément la main. Et après, toutes les problématiques liées à de l'industriel, j'allais dire, très classique dans nos industries du monde du nucléaire. On a commencé l'open innovation il y a à peu près 4 ans chez Areva, suite au lancement du pacte PME. Alors, je ne sais pas si ça doit parler à certains d'entre vous. Et on a lancé, un portail de candidature ou de sourcing de start-up et de PME qui s'appelle Areva PME Innovation et qui permettait, pour faire simple et très entre nous, de montrer patte blanche comme quoi on avait fait des choses dans le domaine. Ce qui s'est passé assez rapidement, c'est que de notre point de vue et du point de vue des start-up, on s'est un peu perdu dans le sens où on servait plus de ça pour faire de la veille que pour montrer des vrais partenariats d'open innovation. Alors, comme vous le savez, dans le monde de la start-up, se tromper, c'est aussi progresser. Donc, on a très vite rectifié le tir. Aujourd'hui, ce portail-là, c'est près de 400 PME ou start-up référencées. En tout cas, pour nous, pour notre partie, c'est entre 5 et 10 projets qui sont lancés par an. Aujourd'hui, nous, on ne fait des appels à candidature que si on a un vrai projet derrière, avec un vrai budget derrière, parce qu'on a bien compris qu'aujourd'hui, une start-up, ce qu'elle attend, ce n'est pas forcément juste du relationnel. Elle a besoin de cash pour vivre, on en parlait il y a 2 secondes. Elle a besoin de monter un vrai partenariat, d'avoir une vraie relation avec le grand compte. Et du côté du grand compte, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est toute la partie, c'est remettre en cause un certain nombre de choses assez fondamentales pour un grand compte, et encore plus dans le nucléaire, c'est la propriété industrielle, c'est les règles d'achat liées aux entreprises à participation publique, par exemple. Faut savoir que pour une entreprise comme Areva, à la base, on n'a pas le droit de représenter plus de 30% du chiffre d'affaires d'une entreprise. Donc pour une start-up, c'est assez vite fait. Donc il a fallu qu'on mette en place un certain nombre de mécanismes. Et je pense que c'est ça aujourd'hui la vraie force d'Areva, c'est qu'on a un mécanisme hyper simple, hyper efficace, qui nous permet de passer des contrats très très rapidement avec des start-up, mais des PME. Enfin, on n'est pas sectaire, nous. On prend start-up, PME, enfin voilà, on travaille avec tout le monde. Et sur des sujets bien définis. Et l'API, c'est une autre problématique parce que c'est souvent central pour une start-up, la propriété industrielle. Sachant que nous, on a un avantage, c'est qu'on est sur un marché relativement restreint. Le monde du nucléaire, ce n'est pas forcément le marché auquel vous pensez quand vous avez envie de monter une start-up. Il n'y a pas forcément énormément d'acteurs. Enfin, ce n'est pas un marché très, très grand. Donc, on a une approche très simple qui est de dire, sur notre marché, on garde la propriété pour nous. Sur le reste, vous faites ce que vous voulez. Donc c'est vraiment une relation de partenariat un peu gagnant-gagnant. Nous, on prend les résultats de nos travaux sur notre marché et finalement, on développe ça avec vous, mais en tout cas sur notre marché. Après, sur le reste, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Et il y a une autre partie qui est assez importante, et là, je m'adresse plus aux gens qui voudraient monter des partenariats. Ne soyez pas non plus à cheval sur la propriété industrielle. La propriété industrielle... Pardon, 3-4. Ça compte pas là. La propriété industrielle, ça coûte cher et il faut être capable de la défendre. Et parfois, un bon accord avec un grand groupe, ce que nous on peut faire parfois avec certaines startups, c'est dire on dépose le brevet, mais vous avez une licence exclusive gratuite d'utilisation sur tous les autres marchés que le nôtre, et nous on s'occupe de défendre le brevet. Et ça, croyez-moi, ça peut vite monter dans les tours quand il s'agit d'aller défendre des brevets. Donc c'est aussi c'est un changement d'état d'esprit, à la fois pour un start-upper qui peut être à cheval sur sa PI et pour un grand groupe qui peut aussi, lui, avoir tout le temps envie de la prendre. Donc, il faut savoir mener le comment dire, son... Enfin, trouver, j'allais dire, à chaque fois un accord aux petits oignons entre la start-up, la PME et le grand groupe. Et c'est un vrai changement à faire dans les mentalités, à la fois de notre côté, et je pense que le travail, il est surtout chez nous, mais aussi un peu du côté des start-up et des PME. Voilà. On est pas mal, hein ?
Super.
Félicitations, vous avez bien briefé. Pour l'instant, pas de dépassement. Pascal Angelini, Il y a un an, quasiment jour pour jour, vous gagnez le challenge. Oui, on va se vous voyez. Vous gagnez donc le challenge ENGIE pour l'innovation. On parlait avec Baptiste justement que cette relation aussi grand groupe PME start-up a été un accélérateur de business. À l'issue du challenge, vous avez quelques retours à nous faire.
Bonjour, donc voilà, oui, je suis Pascal Angelini, donc le CEO de Metaverse Concept. Effectivement, il y a un an, on gagnait le challenge de l'innovation ici même. Face à une grosse structure qui s'appelle Trimble, qui représente environ 6000 personnes dans le monde. On était un petit peu dans nos petits souliers, mais bon, on a gagné. Effectivement, ça nous a ramené pas mal de choses intéressantes. Notamment, ça nous a ouvert les portes d'un grand groupe. Alors, le dialogue n'est pas toujours super facile entre un grand groupe et des petites structures comme nous. Le dialogue est très facile avec Denis Tessier qui est ici et un de ses homologues qui est sur PACA Corse. Mais c'est vrai qu'aller plus haut, c'est un petit peu compliqué. Donc je compte sur Denis et puis Michel pour nous aider là-dessus. Ça nous a ouvert des portes sur un marché avec Cofélie où aujourd'hui on est en train de développer doucement un produit d'aide à la maintenance pour Cofélie Service. Ce produit nous servira d'ailleurs sur plein d'autres choses puisque notre façon de fonctionner, c'est de fabriquer des objets modulaires de software qui nous permettent donc de pouvoir utiliser notre techno sur plein d'autres choses. Ça nous a ouvert aussi les portes sur une banque qui est ici, mais je ne sais pas si j'ai pas le droit de dire son nom ou pas, donc j'ai pas le droit de dire son nom, qui nous a détecté grâce à ce challenge de l'innovation de ENGIE. On s'est rencontré il y a peu de jours pour un peu finaliser notre discussion et je pense que rapidement on va travailler ensemble. Ça nous a ouvert aussi l'accès à des salons, à des interventions auprès d'autres groupes. Notamment, il y a peu de jours, j'étais en Corse pour visiter en fait des gens de INIDIA. INIDIA, ça veut dire innovation en Corse, qui est un peu comme le bivouac, c'est le bivouac corse. Et en fait, ENGIE compte rentrer, avoir des actions comme le fait ENGIE sur la Corse. Et nous, ça nous permet d'aller voir ces autres bivouacs. Ça nous permet aussi d'aller à des gros salons comme... je ne me rappelle même plus comment il s'appelle, Viva Technologie, vendredi, samedi, dimanche. Non, jeudi, vendredi, samedi. Ah, donc après, je pars sur Paris. En gros, ça n'a été que des bonnes choses. Ça nous a fait augmenter notre chiffre d'affaires. Ça nous a permis de pouvoir peut-être déposer un dossier au bivouac et puis d'être reçu au bivouac. Je vois qu'il y a plein de campeurs ici. Il y a des gens du staff et puis il y a des start-up comme moi. Ce que nous apporte de rentrer dans un grand groupe, je vois qu'il y a un autre grand groupe, il y a plein de grands groupes, il y a un autre grand groupe à côté de moi, il va falloir que je lui parle au monsieur. Voilà. Ce qu'on fait peut certainement l'intéresser puisqu'on intéresse d'autres grands groupes. Voilà. Je vous le rends le micro, cher Frédéric.
Merci, monsieur Angelini. Bien, quand on parle des relations grands groupes et PME, on a souvent comme modèle l'Allemagne avec le Mittelstand, ces cohortes, enfin ces relations particulières entre grands groupes, PME et ETI. Abdeslan El-Arak, c'est cette volonté un peu de reproduire ce schéma que vous avez voulu faire chez Michelin avec la co-création d'une entreprise.
Moi, chez Michelin, je suis à l'incubateur Michelin, IPO. C'est un peu plus près, d'accord. Cet incubateur, il a pour vocation, entre autres, d'amener sur le marché des innovations du groupe, des produits issus de la R&D du groupe. Et c'est ce secteur-là dont je m'occupe en particulier au sein des équipes, en plus d'incuber des startups aussi Michelin. Alors, pourquoi ? créer une entité de ce modèle-là, parce que ça permet d'acquérir de l'agilité dans une grande maison comme Michelin. Et cette agilité, ben, c'est de la réactivité, c'est de l'accélération. Mais c'est un mot qu'on entend beaucoup et qui a toute sa valeur sur des marchés qui sont très dynamiques. Et ce marché qu'on adresse en particulier, c'est le marché de l'impression 3D. Donc j'ai accompagné le montage de cette co-entreprise, une joint venture entre finalement deux grands groupes, hein, Michelin et FIV Machining. Et on monte une entité à part entière qui aura pour vocation de vivre sa propre vie et une vie de start-up, parce qu'ils commencent, ils vont être une grosse start-up, une vingtaine de personnes, c'est quand même pas mal, et avec des moyens et une volonté de rayonner. Alors pour rayonner, il faut plusieurs ingrédients, en fait, c'est essentiel. C'est une capacité de développement très rapide, et ça ne se fera pas en s'appuyant que sur nos ressources internes de la JV. Avec 20 personnes, ça ne constitue pas une activité de R&D suffisamment puissante. C'est l'agrégation de tout un tas d'acteurs, un écosystème autour de cette capacité de R&D, aussi bien des académiques que des PME, des jeunes acteurs qui ont déjà mis le pied à l'étrier à cette technologie d'impression 3D. Et on est sur une techno particulière qui est l'impression 3D métal, hein, pas du plastique, mais du métal. Donc on est encore un cran supérieur en termes de difficulté de maîtrise de la technologie. Et donc on a une volonté de catalyser, de mettre en mouvement, en fait, tout un tas d'acteurs à l'échelle nationale pour qu'ils puissent rayonner à l'échelle monde, on l'espère. Et pourquoi ce modèle allemand? C'est parce que les leaders actuels de cette technologie d'impression 3D sont allemands pour l'essentiel. Et ils sont nés eux-mêmes à partir en fait, de développement académique dans leurs universités allemandes. Et c'est l'agrégation, en fait, de tout un tas d'acteurs et beaucoup de capacités de R&D. Et où ils ont créé d'abord des spin-offs et qui sont devenus des grands groupes aujourd'hui, qui rayonnent à l'échelle internationale. Et ils continuent à s'appuyer sur ces back-office qui leur dénichent ou trouvent des technologies, des innovations pour continuer à faire développer cette techno. On ne s'en rend pas compte, mais en impression 3D métal en particulier, on double les productions tous les 3 ans à peu près. Donc c'est des courbes exponentielles, en fait, de croissance en termes de développement technologique. Et c'est ce développement technologique, ça sera le levier pour agréger des marchés de plus en plus grands. Plus on est productif, plus on tombe les coûts, plus on arrive à capter des marchés de plus en plus pertinents. Ce modèle-là, c'est ce qu'on souhaite recréer au sein de cette JV, et catalyser avec des grands groupes comme Michelin. Pourquoi un grand groupe derrière? Parce que déjà, ça a une capacité de rayonner qui n'est pas la même qu'une start-up. On peut faire les liens, connecter à tout un tas d'acteurs on arrive aussi à trouver les relais qui vont bien sur des instances plus gouvernementales. On a eu le soutien de la région, on a le soutien à l'échelle nationale de la BPI. Et c'est autant de relais qui sont des effets de levier qui vont permettre, en fait, de mettre le pied à l'étrier à un certain nombre de PME et d'académiques qui permettront aussi, en fait, ces académiques de former la jeunesse qui viendra opérer ces machines qu'on développe dans un avenir proche. Donc peut-être certains d'entre vous dans cette salle, quoi. Voilà. Je suis...
Merci pour vos témoignages. Comme vous le voyez, enfin, à travers ces témoignages, c'est que l'open innovation, elle permet de sortir de cette relation classique client-fournisseur. Et à travers ces démarches partenariales, on l'a vu avec deux jeunes entreprises, il y a l'aspect effectivement visibilité puis accélérateur. Et puis à travers ces grands groupes, on a cette volonté aussi de ne pas empiler dans des labs une collection, un catalogue de start-up, mais vraiment d'avancer ensemble et de générer du business ensemble. Donc c'est un petit peu la conclusion qu'on peut en tirer. Maintenant, est-ce que vous avez des questions?
Non, il y a une... Enfin, on pense qu'il y a une notion de sensibilisation à l'open innovation, c'est-à-dire que dans l'absolu, aujourd'hui, ça intéresse, enfin, ça peut et ça doit intéresser tous les acteurs économiques. Là, on parle de start-up et d'entreprises, petites ou grandes, mais pourquoi pas des fondations, pourquoi pas des collectivités, voilà, parce que finalement, l'innovation, elle est utile à tout le monde. Et on pense qu'en échangeant à plusieurs, on est plus riche qu'en restant dans son coin, tout simplement. Donc, créer des opportunités d'échange, ça semble naturel. Maintenant, ça nous semble naturel. C'est peut-être pas évident pour pas mal de boîtes. En fait, on sait que le tissu économique auvergnat, c'est plutôt des PME, éventuellement des ETI, quelques grands groupes dont on parle beaucoup, mais c'est la minorité quand même du nombre de structures, évidemment. C'est différent de Lyon ou de Grenoble, pour le coup. Et du coup, voilà, il y a un travail de vulgarisation, de sensibilisation pour attirer petit à petit les entreprises qui ne sont peut-être pas habituées à s'ouvrir, en fait, et à partager leurs problématiques avec d'autres types de structures ou d'autres types d'acteurs. Et voilà, donc il faut les emmener petit à petit là-dedans, et c'est l'objet de nos événements, de nos actions. J'ai bien dit, hein ?
Je vais rebondir. Enfin, je fais partie, à travers Preda, la société qu'on a fondée. Je fais partie du Lab RH à Paris. C'est une cohorte de 250 à 300 startups. Et on monte souvent en cohorte sur des rendez-vous, pas pour faire forcément de l'open innovation, mais entre les membres du Lab RH, quand on a la chance d'avoir un rendez-vous dans un grand groupe, on va venir à 2-3 startups qui sont autour d'une problématique qui est exposée. Et il y a cette façon aussi de travailler collaborativement ensemble entre start-up ou entre PME. Donc l'open innovation, ce n'est pas forcément aussi que des relations grand groupe PME, c'est aussi travailler ensemble. Alors moi, à ma petite échelle, je le fais avec un certain nombre de membres du Bivouac, par exemple, où voilà, j'ai des opportunités pour qu'on travaille ensemble entre start-up avec des comptes intéressants. Et je pense que cette possibilité aussi de rentrer de monter en cohorte ensemble entre start-up, ça fait sens. Voilà. Donc il y a ça aussi à évangéliser auprès des jeunes entreprises ou des PME.
Je pense pas qu'il y ait une réponse unique. C'est une question, je pense, que tout groupe qui se lance dans cette problématique d'incubation se pose. Avant de parler du comment, je pense que la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on le fait. Et ça, c'est fondamental. Les gens, en tout cas nous, on le voit régulièrement, on parle beaucoup avec les grands groupes qui font l'incubation, et souvent la question du pourquoi, elle a été posée il y a tellement longtemps qu'on ne se rappelle plus de la réponse, soit elle n'a pas été posée réellement. Et le pourquoi, il est important parce que dans le pourquoi, on va mettre des marqueurs pour savoir si on a atteint notre pourquoi. Et on peut commencer par exemple par dire qu'un ROI financier, faut oublier, d'accord, ça ne marche pas. À ma connaissance, ça ne marche nulle part, en tout cas au sein d'entreprises. Au sein de grands groupes, en tant qu'accélérateur indépendant, c'est un peu différent, mais donc il faut vraiment se poser la question de ce qu'on va chercher dans cette incubation de projet. Après, interne, externe, nous au CEA, au CEA Leti, je précise, sous-groupe du CEA, on le fait en interne depuis maintenant, depuis 30 ans. On a vraiment accéléré. Il y a aussi une question de volume. C'est-à-dire qu'au début, on faisait une, deux start-up tous les 5-6 ans. Dans les années 2000, on est passé à une par an. Et depuis donc 3-4 ans, on est à 5 par an. 5 par an, on ne va pas faire plus en interne. Donc, on va en fait outsourcer ça. Donc, on a commencé en interne. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on plafonne. On plafonne forcément parce que nos BU, nos business units, elles ont des contraintes court terme annuelles à réaliser leurs objectifs. Voilà. Créer une start-up, c'est un investissement sur du... j'ose même plus dire du moyen terme. C'est un investissement sur du long terme. Donc, ça ne matche pas en termes d'objectifs. Et forcément, à un moment donné, ça frotte. Nous, ça frotte énormément. Alors, on n'en veut pas du tout à nos managers. Hein. Ils ont leurs contraintes et on leur demande de faire leurs chiffres. Donc, on ne va pas les empêcher de le faire. Maintenant, ça frotte trop pour continuer à le faire en interne. Donc, on a décidé là d'outsourcer notre accélérateur. Donc, l'accélérateur va maintenant être à l'extérieur. Et ça a aussi une vocation, c'est que ça nous permet d'attirer beaucoup plus facilement des entrepreneurs externes. Parce que, donc, qu'est-ce qu'on fait en interne? Nous, la techno vient de l'interne. Les entrepreneurs viennent aussi de l'interne au départ, mais on se rend compte que avoir des gens qui viennent de l'extérieur dès le départ, ça a une valeur incroyable. Donc aujourd'hui, on n'a plus une start-up qui se monte sans un entrepreneur, idéalement un sérieux entrepreneur qui vient de l'extérieur. Et même aujourd'hui, on répond à des demandes d'entrepreneurs qui viennent déjà avec une start-up en bonne voie et qui cherchent un différenciant technologique, et on répond aussi uniquement sur cet aspect-là. Donc, ah oui, alors nous, on a mis en place tout un processus. Et on implique la hiérarchie nécessairement. On a des budgets. Donc, moi, je gère aujourd'hui un budget sur l'accélération de start-up. Donc, on veut aussi s'assurer que quand on dépense, c'est des budgets qui peuvent être conséquents. Quand on dépense de l'argent sur un projet, on veut s'assurer qu'on n'est pas devenu juste un guichet supplémentaire interne. On veut s'assurer que l'argent qu'on met, il va bien dans l'accélération de l'entrepreneuriat, de la démarche entrepreneuriale, et pas dans un financement supplémentaire. Donc on a besoin de s'assurer de ça. Donc les managers sont impliqués, et quand ça se passe mal, on s'explique. Ouais, forcément.
C'était tout le sujet d'un débat que j'ai eu avec le fondateur de The Family la semaine dernière, justement sur sa relation grand groupe start-up. Et lui disait que, enfin, son analyse était que aux États-Unis, les grands groupes prennent beaucoup plus au sérieux les startups. Il n'y a qu'à voir justement les rachats de startups aux États-Unis par les grands groupes. C'est des milliards qui peuvent être posés sur la table. Et si on reprend l'exemple de Linda rachetée par LinkedIn, ben c'est une petite startup qui était dans le domaine de la formation, qui a été rachetée par une très grosse boîte. Et cette start-up est restée une entité indépendante, mais le CEO de Linda est rentré dans le board de LinkedIn. Et quelques mois plus tard, des intégrations, enfin des nouveaux services sont apparus chez LinkedIn. Et le fondateur de Family disait ben, il faut qu'on prenne au sérieux les start-up, et c'est pas en donnant un petit ticket, un petit billet de temps en temps que dans nos boards de grandes entreprises, on les prendra au sérieux. Donc il y a aussi cette dimension, c'est qu'à un moment, il y a le chèque qui rend la participation, enfin ces relations crédibles. Je parlais tout à l'heure justement des labs qu'on peut voir, enfin j'en vois tout, dans les grands groupes beaucoup, où on empile comme ça des startups, mais il n'y a rien qui se fait. Et nous, startups, le temps, c'est crucial, et discuter pendant des mois ou des années sur des projets, s'il n'y a pas de business derrière, ce n'est pas intéressant.
Oui, juste un petit mot, Fabrice, par rapport à ta question. Dans le monde de la pharma, je pense que je ne t'apprends rien. Hein, les grandes pharma ont des portfolios qui sont complètement vides, qui se sont complètement taris, et qui aujourd'hui sont bien conscients que si elles peuvent progresser, c'est aussi en passant et en s'intéressant de très très près aux start-up. Et on sait que là, il y a des gisements de produits, il y a des gisements de candidats médicaments qui intéressent de plus en plus maintenant les start-up. Ça, c'est une première chose. Et l'autre point, si j'en crois mon expérience, on voit bien que maintenant, les grandes pharma, les grandes biotech externalisent de plus en plus, sont conscientes qu'il y a une réactivité qui est beaucoup plus forte dans les toutes petites boîtes, dans les petites start-up, et que finalement, elles recherchent une expertise très pointue, qu'elles n'ont plus du tout envie d'internaliser, et que finalement, elles vont chercher à l'extérieur, chez les petits, et majoritairement chez les petits.
Ouais, moi je l'ai lu aussi dans cet article, et on en a pas mal discuté aussi en interne. Je pense qu'il y a un facteur fondamental de différence entre la Silicon Valley et nous, c'est le financement et l'accès au financement. En France, quand vous faites un tour en levée de fonds, quand vous, enfin on va dire sur de l'early stage, quoi, vous tapez quelques millions d'euros, vous êtes content, quoi. Aux États-Unis, les niveaux de financement sont pas les mêmes du tout, et ça donne beaucoup plus de puissance à la start-up pour challenger le gros, quoi. Si Airbnb avait commencé avec 4 millions d'euros, je sais pas s'ils en seraient là aujourd'hui. Et donc le passage de la collaboration avec les grands groupes, il est heureusement ou malheureusement, je ne sais pas s'il faut le déplorer ou pas, mais en tout cas, il est un peu obligatoire si on veut vraiment tout simplement vivre, quoi. Donc, à moins d'avoir la super bonne idée qui fasse que vous levez des millions tout de suite, mais dans le principe, je pense que la vraie différence, elle est là. C'est que pour les startups aujourd'hui en France, on est quelque part un peu obligé de travailler avec des grands groupes. Et travailler avec des grands groupes, bah forcément, ça fait rentrer dans le radar tout de suite. Et du coup, si à un moment, le grand groupe, il sent un gisement de valeur, bah, il va avoir aucun problème à vous racheter parce qu'il vous connaît, parce que ça fait longtemps qu'il travaille avec vous et parce qu'il sait ce que vous valez, ou pas. Mais en tout cas, voilà. Et donc, l'accès à ce financement, j'allais dire early stage, et puis après les premiers tours de financement, il est fondamental et en France, il n'est pas du tout accessible. C'est un peu en train de changer. Là, ces dernières années, il y avait un petit frémissement là, qui ont commencé à avoir des belles valorisations en premier tour, mais moi, je ne suis pas sûr que ça continue tellement, quoi. Et je pense que la vraie différence et le vrai marqueur entre la France et les US, c'est ça.
Juste Christophe Suche, Orange, un petit groupe. Mais enfin, j'adhère à ça. Ceci étant, il faut faire attention à des réflexes typiquement français qui sont vraiment le rachat. Moi, je crois que parce que si on monte une start-up pour se faire acheter, c'est juste un peu curieux et on a toutes les chances de se planter. Je voudrais juste, dans votre réflexion, inclure quelque chose. Vous avez beaucoup parlé d'incubateur. Avec ou pas un contrat commercial à la clé, chaque incubateur agit différemment. Rajouter que les grands groupes, on représente une puissance de feu sympathique pour les startups, même si on n'a rien à voir avec elles. Je vous prends deux exemples. Moi, je suis en train de travailler en ce moment sur l'ouverture des process achats pour faire, parce qu'on a forcément, les grands groupes sont des acheteurs centralisés avec des process très compliqués. Si on n'est pas capable de faire bosser des startups régionales, c'est juste un vrai souci. Hein. Si vous croisez des startupeurs qui gagnent de l'argent, vous m'appelez, j'irai les voir. Je prendrai le temps d'aller les voir parce que j'en connais pas encore aujourd'hui. Donc ça, c'est un vrai souci. Si on veut continuer à avoir des gens qui innovent et qui ont envie d'innover, ben, il faut quand même qu'ils aient un minimum de contrat à la fin du mois. Et deuxièmement, dans les process internes de l'entreprise, que ce soit RH, logistique ou autre, on peut aussi faire travailler les startups comme des laboratoires. C'est pas la peine de recréer des laboratoires et des living labs partout, alors que nos entreprises, quand on est, nous, sur la part du, on est 3200 salariés dans les immeubles, je pense qu'on est une masse sympathique pour tester un produit, un service, une innovation, etc. Et donc, il faut que les grosses entreprises, et j'appelle les autres à le faire, nous, on le fait aussi, ouvrent leurs portes, entre guillemets, pour servir de living lab. Je crois qu'il y a beaucoup trop de structures en France. Ça, c'est un avis très perso. Et les start-upers commencent à être un peu fatigués et lassés d'être pris effectivement comme des outils comme média marketing, souvent par les grands groupes. Et pendant ce temps-là, ils ne font pas le business. Et si 18-24 mois après la naissance de la start-up, on n'a pas une tête d'affiche, on n'a pas un contrat, on n'a pas une référence, et on n'a pas de logo pour accompagner le sien, on est quasiment mort-né. Donc ça, c'est très important. La bulle est grossie. J'espère qu'elle ne va pas exploser en vol comme ça et en laissant des milliers de jeunes créateurs hein, entre 18 et 35 ans, voire plus, sur le carreau. Et j'en veux pour preuve, on commence à recevoir des mails de start-up qui arrêtent leur activité. Hein, le petit mail qui dit l'aventure était géniale, mais se termine, on ne regrette rien. Ou beaucoup de start-up qui pivotent. Ça veut dire que peut-être, et là c'est un message que j'adresse aux incubateurs et aux accélérateurs, peut-être qu'il faut vraiment regarder à deux fois les use cases et le business model parce qu'on commence à avoir vraiment beaucoup de pivots. Le pivot, c'est juste quand même un avou, un petit peu d'échec, etc. On doit découvrir des choses en deux ans et demi, mais on ne pivote pas au bout de deux ans et demi, trois ans, encore moins à 180 degrés. Sinon, ça veut dire qu'on a loupé quelques étapes. Donc voilà, donc prudence à tout le monde. C'est génial tout ça. Il y a beaucoup... De positif là-dedans. C'est génial aussi, ne serait-ce que si quelqu'un arrive à créer son emploi ou deux ou trois autres de plus, hein, sans compter se faire acheter par Google ou Microsoft. Mais attention à tout ça, parce que derrière, c'est des ressources humaines et c'est de la fragilité. Voilà, merci.
Merci. Ben on aura l'occasion d'échanger sur ces thématiques aux prochaines rencontres du Connecteur. Donc, je terminerai justement par les prochains événements. Le prochain événement qui est organisé avec Auvergne Nouveau Monde, c'est les EPERO, les rencontres de jeunes porteurs de projets, pas forcément entrepreneuriaux, qui ont lieu tous les quatrièmes mardis de chaque mois. Donc il a lieu à Epicentre ce mardi, donc demain. Vous êtes tous les bienvenus pour découvrir de nouveaux projets. À la rentrée, le 22 octobre, on aura le TEDx Clermont avec une partie sur... l'innovation qui se déroulera aussi à l'ESC Clermont, vu qu'on va vous retransmettre en direct le TEDx et puis on accueillera un certain nombre d'innovations Donc il y aura une belle animation ce jour-là. Et puis vous pouvez suivre notre agenda sur les réseaux sociaux, sur le site du connecteur.org, et puis aussi découvrir l'agenda de tout l'écosystème de l'innovation en Auvergne sur notre site. Voilà, je vous remercie pour votre participation. Je remercie les membres de la table ronde pour le temps et vos témoignages. Et je remercie Angie pour sa participation.